Je voulais juste vous donner deux, trois mots de bienvenue ici en vous rappelant pour ceux qui ne connaissent pas le quartier et qui ne connaissent pas les maisons de quartier, vous rappeler qu'ici, on n'est pas dans un lieu officiel, ville de Genève, institutionnel, mais qu'on est dans un lieu qui est mis à disposition par la commune, mis à disposition d'une association. Et si tout ça fonctionne, c'est parce qu'il y a une association d'habitants. Quel plaisir est de pouvoir bénéficier de moyens financiers qui permettent d'engager des professionnels de l'animation. Il y en a quelques-uns, il y en a une en tout cas derrière moi qui est Sandra. Mais tout ça pour vous dire que si un lieu comme ça fonctionne et qui veille à faire des accueils pour les enfants, pour les adolescents, pour les aînés, et d'avoir multiples activités, c'est parce qu'il y a des gens qui s'engagent, et je vous invite à faire partie de cette association. Le but essentiel d'une association comme celle-là, je crois que c'est de créer des occasions comme celle-ci, des occasions où il y a du lien qui se fait, que les gens du quartier se connaissent. On estime en gros que si on laisse aller les choses dans le monde dans lequel on vit, les forces du marché et autres vont plus pousser les gens à s'isoler, à s'individualiser, et qu'il faut travailler à ce qu'il y ait une certaine cohésion dans le quartier, donner les occasions aux gens de se rencontrer et de pouvoir proposer des projets pour leur lieu de vie. Voilà, ça c'est le but de cette maison. Il y a ici des informations qui vous donnent tous les détails sur ce qui se fait à cette maison de quartier, mais n'hésitez pas à nous contacter si cela vous intéresse. Par ailleurs, cette maison de quartier, depuis ses débuts, qui n'était pas ici, mais un peu plus bas sur la rue de Saint-Jean, s'est intéressé à faire en sorte que les gens puissent avoir une occasion de comprendre leur lieu de vie. Donc on a travaillé sur l'histoire, notamment sur l'histoire orale, avec plusieurs publications. La dernière, c'est celle-ci. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'acheter ici. C'est un bouquin sur toute l'histoire du quartier Saint-Jean-Charmy. L'idée étant que, de nouveau, si on veut être acteur de son quartier, il faut bien aussi connaître un peu comment c'est construit. Et ça participe aussi du thème de cette journée. J'aurai le plaisir d'intervenir là en tant que membre du groupe Histoire Passé de Saint-Jean de la Maison de Quartier avec Pierre Baumgart, puisque le thème de cette année, c'est la nature en vie. Alors voilà, bienvenue à la Maison de Quartier pour ce début de manifestation d'accueil des adultes. Et puis, pour ceux et celles qui s'intéressent, nous avons un journal qui sort deux fois par année. Il est ici. Regardez vos boîtes aux lettres parce que normalement il devrait être distribué gratuitement dans vos boîtes aux lettres. Si vous ne le recevez pas ces jours prochains, n'hésitez pas à venir nous le dire. Ça veut dire qu'il y a des bugs dans la distribution. Et si vous le voulez en avant-première, vous pouvez vous servir, il y en a par ici. Voilà. Merci. Merci. Merci.
Alors je vais prendre la parole un tout petit instant, simplement pour vous dire qui est présent auprès de vous pour cette matinée. Donc on a beaucoup d'associations et d'institutions qui sont représentées. On a des collectifs aussi, on a le collectif des voisins de Saint-Jean, du contrat social, qui sont un petit peu répartis partout là. Donc je ne sais pas si vous voulez lever la main, le collectif du contrat social, juste qu'on voit. Voilà, on a donc les représentants de la maison de quartier qui sont, à part Pierre, donc il y a Sandra, on a aussi Fabien qui est là, on a donc aussi de l'Hospice Général, Valérie, Alexiane, Marina, Isabelle, Tania qui sont où ? Par là, voilà. Et puis on a d'autre part des personnes qui vont nous rejoindre, entre autres de l'association pour le potager urbain qu'elle a. On va s'arrêter en fait au potager, ce qu'on appelle le potager de la PUC, où là on va pouvoir visiter avec Ruth qui est par ici, qui va donc vous proposer en fait, va vous proposer de faire une visite guidée par petits groupes en fin de balade. Ça vous permettra de poser les questions que vous souhaitez et de voir comment ils ont monté aussi ce projet. Gisèle Levray nous rejoindra certainement. Et puis aussi, donc, vous avez Radio Bidule qui est présent, William qui est là. Donc William a eu la gentillesse de nous interviewer il y a 2 semaines et il a proposé de nous accompagner pour ceux qui ont envie de donner leur avis sur le quartier ou d'autres questions qui les touchent sur le quartier de Saint-Jean. Autrement, donc, juste question organisation, vous avez des flyers sur la table ici pour vous repérer concernant le parcours. Les pastilles vertes, en fait, sont les emplacements où on va s'arrêter. Donc, on va, pour la première halte, on va juste s'arrêter devant la maison de quartier parce qu'il y a beaucoup à dire déjà sur la couverture des voies. Voilà. Et la coopérative du Nouveau de Saint-Jean donc, a beaucoup œuvré en question nature à propos de ça. Et puis, vous avez aussi un jeu d'observation qui est proposé par l'APE de Saint-Jean de Vin-du-Village. Céline donc, a préparé des questionnaires avec Pierre Baumgart. Et les enfants peuvent donc prendre ces petits questionnaires et ils auront un petit cadeau en fin de parcours qui a été fait de la main de Pierre Baumgart. Donc, on vous souhaite une très belle balade. Elle durera à peu près 1h30. Ensuite, on fera un petit apéro. Donc, voilà, on espère que le temps soit avec nous. Et puis, voilà, tout bon. Merci. En avant. Merci.
Vous me direz que pour un thème, la nature en ville, c'est pas terrible de commencer sur une dalle de béton. Mais enfin, c'était quand même juste pour rappeler deux choses, surtout pour les nouveaux habitants, parce que c'est quelque chose qui se perd comme histoire. C'est qu'ici, nous sommes sur une tranchée qui était creusée au 19e pour faire passer le chemin de fer, et que c'était complètement couvert depuis le pont des Délices jusqu'au pont de l'avenue d'Aïr. Notamment grâce à l'introduction des nouvelles normes environnementales et la première ordonnance fédérale contre le bruit. Parce que jusqu'à dans les années 70-80, le bruit en ville, c'était considéré comme quelque chose d'assez normal. Et arguant sur le fait que la multiplication des passages de trains, notamment avec l'ouverture de coins-trains de la gare de l'aéroport, allait multiplier les nuisances, il y a eu possibilité de lancer ce projet, qui était un projet énorme et qui était peut-être le dernier projet comme ça possible en ville. Il a fallu quand même une initiative et que les gens du quartier se bougent pour forcer la décision. Et c'était un énorme chantier qui s'est déroulé en gros dans les années 80, le début de l'élargissement de la tranchée, puis 90 pour la couverture, et qui s'est terminé avec la construction des infrastructures qui sont dessus. Et ça a été un sacré débat politique aussi. Certains voulaient des constructions d'immeubles, d'autres voulaient que ce soit un parc public. Enfin, il y a eu toute une discussion, je vous renvoie à l'histoire du quartier Boursin, mais les travaux se terminent en l'an 2000 à peu près. Donc sachez qu'on est ici quand même sur quelque chose qui est récent, et puis qui est mouvant, parce que... il y a quand même pas mal d'interrogations sur le devenir de ce qui se passe sur cette couverture. Alors, pour le lien avec la nature en ville, je passe la parole à Pierre Bunga.
Bonjour. Donc, j'interviens ici un petit peu à double titre. Donc, j'ai un atelier. Vous avez vu qu'il y a sur cette couverture dont vient de parler Pierre un certain nombre de grosses boîtes en bois qui s'arrêtent ici, mais qui vont jusqu'au carrefour des Délices. Alors, ces boîtes en bois, en fait, c'est une coopérative. C'est une coopérative du Renouveau de Saint-Jean, et qui a pour vocation de proposer des ateliers pour des artisans, pour des artistes. Donc il y a deux types d'ateliers, soit des ateliers professionnels, soit des ateliers dits familiaux. Alors donc j'ai un atelier de gravure sur bois, je suis peintre animalier en fait de profession, j'ai appris mon métier avec un monsieur que certaines personnes connaissent peut-être, qui s'appelle Robert Hénard. Donc je suis très touché par tout ce qui touche à la nature sauvage. Et puis, ma deuxième casquette, si vous voulez, c'est que je fais partie du conseil de cette coopérative, dont j'ai d'ailleurs la présidence cette année. Donc, à ce double titre, si vous voulez, je viens vous parler un petit peu de ce rapport à la nature en ville. Ces bâtiments très légers, du fait d'être sur la couverture du train, retiennent aussi, par le fait d'avoir une dalle de béton, retiennent beaucoup de chaleur en été. Et au sein du conseil, on a eu pour mission, en fait, de réfléchir et de travailler à une meilleure isolation thermique, pas pour l'hiver mais pour l'été. Donc, il faut savoir que toutes ces toitures avaient en fait du verre pilé à l'origine, donc ça renforce encore le côté de chaleur. On a mesuré des températures jusqu'à 35 et plus degrés dans les ateliers supérieurs. Donc on a réfléchi à améliorer un petit peu ça, et puis dans le cadre de cette réflexion, on a songé à végétaliser les toits, donc offrir, si vous voulez, en répondant à la question thermique, offrir un aspect plus naturel de cette couverture. Et cette réflexion, je passe un peu les détails, mais cette réflexion nous a amené à déborder un peu de nos toits, à prendre des contacts avec les différents services de la ville, puisque là, on est en fait sur les terrains de la ville. Dès qu'on est sur les bâtiments, on est dans notre coopérative. Dès qu'on sort de nos bâtiments, on est sur la ville. Donc, il y a un certain nombre de, je dirais, de partenariats, de discussions qui sont encore en cours et qui visent en fait à améliorer d'une part la thermie, mais aussi le côté convivial, végétation, ombre, peuvent faire un petit peu défaut. On le constate par l'utilisation depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, les toits sont végétalisés, les toitures basses. Les toitures hautes vont l'être prochainement. On est en train de réfléchir à un concept d'explication. Donc on va probablement mettre une sorte de toiture démo au sol pour que les gens comprennent ce que sont des prairies sèches. Donc voilà, il y avait ce rapport à la nature et à la ville. Et c'est la raison pour laquelle je viens discuter un petit peu avec vous et regarder, tourner autour de cette problématique de la nature. La deuxième chose que j'aimerais vous dire avant de partir au pont de la jonction, c'est qu'on a les concepts de rapport à la nature et nature en ville, c'est des choses qui sont assez nouveaux, parce que jusqu'à récemment, on a surtout préservé des réserves naturelles, comme des îlots comme ça, où on s'est dit on va préserver des milieux naturels et des espèces. Et puis on s'est rendu compte qu'avec l'urbanisme qui grignote, avec nos infrastructures un peu partout, que ce soit les routes, les zones villas, la densification, on s'est rendu compte que ces îlots, en réalité, commencent à se déconnecter. Ils sont déconnectés les uns des autres. Et bien qu'ils soient protégés, on peut faire disparaître des espèces puisqu'ils ne sont plus reliés et connectés à d'autres. Donc ce rapport de milieu naturel préservé comme des petites réserves comme ça, a fait un petit peu son temps. Et on est en train de réfléchir, en tout cas au niveau du canton, mais je sais que ça fait un peu partout en Europe, c'est des tendances un peu nouvelles, c'est de plus forcément regarder un espace restreint, petit, et de le préserver, c'est plutôt de regarder des cordons, de comment est-ce qu'on peut relier des zones de cordons pour que la faune, la flore, les arbres, les graines, etc., puissent se déplacer et survivre. Parce que si on isole une population, à terme, génétiquement, elle s'affaiblit et elle peut disparaître quand même. Donc la couverture des voies, tout l'aspect prairie, etc., pour certaines personnes, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, c'est un coup de pouce qu'on offre à la nature, à des graines, à des plantes, parce que les toitures elles-mêmes, ici, c'est peut-être pas aussi riche et aussi fort que des vraies prairies sèches qu'on trouverait à l'extérieur du canton, mais couplées à la présence du Rhône, couplées à des parcs, couplées à différentes choses, on est en train de tisser en fait un réseau de milieux naturels, de milieux recréés, de zones d'arbres, de plantes, etc., qui permettront à terme de préserver et de conserver. Donc c'est chaque fois des petites choses qui sont rajoutées l'une à l'autre. Je vous propose de partir vers le Rhône, puis on continuera la discussion plus loin.
On attend la queue du peloton. Donc on est arrivé ici en empruntant le sentier qui s'appelle maintenant, ou le chemin qui s'appelle maintenant le sentier du promeneur solitaire, en hommage aux rêveries du promeneur solitaire de Rousseau. Juste deux mots là-dessus, tout le quartier, toute cette partie du quartier a donc été dédiée à Jean-Jacques Rousseau, pas du tout parce qu'il y a un rapport quelconque avec Rousseau, mais c'est une pure spéculation immobilière, promotion immobilière dans les années, pour le bicentenaire de Rousseau, 1912. Et la société qui possédait tous ces terrains et qui cherchait à les promouvoir a utilisé le thème de cette journée d'aujourd'hui, puisque c'était de promouvoir l'idée de la nature en ville ou la ville qui se construit dans la nature, et de profiter de l'anniversaire de Rousseau pour baptiser toutes les rues du quartier, soit en hommage à certaines œuvres de Rousseau, soit en hommage à certains points de sa vie. En l'occurrence, ce sentier du promeneur solitaire maintenant emprunte, si vous regardez bien, un ancien ravin. Il y avait là un nom qui s'appelait au 19e le nom Kéla. Précédemment, ça s'appelait le nom Vigné. Kéla, c'est donc la famille qui a acheté la propriété qu'on voit ici à gauche et dans laquelle on ira se promener en fin de balade. Et ce nom Vigné a profondément été modifié pour deux gros motifs concernant la construction de la ville. Le premier problème, c'est quand on a une ville, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets, et en l'occurrence de ces eaux usées. Jusqu'en 1860, à Genève, chaque immeuble essayait de se raccrocher à un bout de ruisseau qui se jetait dans le Rhône. Et c'est en 1860 qu'on a pour la première fois commencé à construire des collecteurs le long des rives du Rhône, avec Turetini. Mais ces deux collecteurs qui étaient de part et d'autre du Rhône débouchaient vers le quai du Seugey, à l'heure actuelle, au milieu du Rhône. Et jusque dans les années 50-60, vous aviez au milieu du Rhône une espèce de... Je parlais donc de cloaque au milieu du Rhône qui ne donnait pas du tout envie de se baigner à cette époque-là. Et c'est dans les années 1960 qu'est émergée, en tout cas à Genève, l'idée d'épuration, de traitement des eaux usées. Et à partir de là, dans les années 60, il y a eu d'énormes chantiers puisqu'on a allongé les collecteurs sur la rive gauche et sur la rive droite du Rhône, le long de l'Arve. Et tous ces collecteurs ont abouti ici, les deux, celui de la rive gauche du Rhône et celui de l'Arve, sur la pointe de la jonction, ce qui justifie cette construction en béton qui est au siphon. Et en fait, tous les égouts passent sous le Rhône et vont dans cette magnifique construction qu'on voit de l'autre côté ici, qui bouche le Nanvigné, qui est en fait une station de pompage. Et ça, avec les eaux qui viennent de la rive droite, la pompe monte toutes ces eaux usées d'une dizaine de mètres pour les projeter dans un égout collecteur qui se rend vers le début du pont Butin, puis en pente douce descend jusqu'à la steppe d'Aïr, jusqu'à la station d'épuration d'Aïr. Voilà, déjà là, il y a une profonde modification du lieu. Mais le Nanvigné, précédemment déjà, avait déjà été complètement modifié pour cette même raison. C'est en 1914 que la commune qui était ici, qui n'était pas la ville de Genève encore, c'était l'époque c'était le petit Saconnet. Et la ville de Genève s'est irritée contre le petit Saconnet qui urbanisait toute la région de la Servette et des Charmilles. Et tous les égouts de Servette, Charmilles partaient en ville. Et on a dit maintenant ça suffit, vous vous débrouillez pour avoir votre propre réseau d'égouts. Et donc ils ont fait un collecteur qui a emprunté le Nanvigné. Du coup les deux propriétaires qui étaient Kéla et la société immobilière ici ont dû céder le fond du Nan à condition qu'on y fasse aussi une promenade par-dessus l'égout. Et donc on a modifié ce truc, on disait c'est un lieu naturel, on va tout ça, mais enfin il a quand même pas mal modifié. Et c'est de cette époque que date l'aménagement des rives du Rhône en promenade, notamment avec le sentier des falaises, puis cette bizarre construction que vous avez en ciment ici, qui est une espèce de galerie, qui a été construite par les intérêts de Genève, parce qu'il y a une espèce d'éperon dans la falaise qui empêchait de passer, sauf pendant les basses eaux avec les pêcheurs, mais ce n'était pas suffisant pour les promenades dites familiales. Et ça remontait ensuite dans le Nanquéla, jusque vers cette rotonde que vous avez avec des escaliers qui est derrière l'immeuble Constellation. Ça, c'est le premier point. Mais entre-temps, la région avait passablement changé aussi, puisqu'il y avait le problème du chemin de fer et le problème des flux de marchandises. Les chemins de fer, on avait donc creusé cette tranchée sur laquelle on était tout à l'heure et placé la gare à Cornavin. Restait le problème du traitement des marchandises. La gare des marchandises était liée à la gare Cornavin à l'époque. Mais il y avait un projet notamment de navigation fluviale depuis Marseille qui serait remonté, les bateaux seraient remontés ici sur le Rhône, auraient passé là où il y a le quai d'embarquement des ordures qui est là-dessous, un canal qui aurait été parallèle à l'Arve, et puis vers la région des Vernets, là il y aurait eu des grands bassins pour les bateaux, et il fallait à ce moment-là relier ces grands bassins avec le chemin de fer pour faire le transbordement des marchandises. Et le premier projet, il s'est fait quand même, on ne le voit pas avec le feuillage malheureusement, mais il s'est fait avec le pont Butin. Et si vous regardez le pont Butin qui a été construit grâce à une donation d'un monsieur Butin, qui a donné 1 million pour construire un nouveau pont à l'époque. Bon, ça a coûté, je crois, 26 millions pour finir. Enfin, voilà. Ce pont, vous avez vu qu'il a deux tabliers, puisque le tablier inférieur était prévu pour y faire passer le chemin de fer, un tunnel qui aurait rejoint la plaine de l'Air vers la Praille. Avec un projet qui était soutenu par les habitants de Saint-Jean, qui voulaient fermer la tranchée du chemin de fer et déplacer tout le réseau de chemin de fer vers une nouvelle gare qui aurait été à Beaulieu, vers l'école des Cropettes. Projet qui a été abandonné avec la Première Guerre mondiale, mais juste avant la guerre, il tenait bien la route, hein, ce projet. Puis après la Première Guerre, les chemins de fer fédéraux ont décidé de renouveler la gare Cornavin et puis de prendre le chemin le plus court par le Nanquéla pour rejoindre la Praille. C'est un projet qui a été réalisé dès 1940 avec les discussions sur l'aménagement du Nan et les propriétés. Puis ensuite, on a creusé la tranchée vers la rue des Confessions, avec la terre dégagée, on a comblé le Nan pour avoir une ligne droite.
Et puis le pont lui-même a été construit pendant la guerre 43-44 et inauguré en 45-46. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une profonde modification. Puis la dernière modification, puisqu'on parle de rapport à la nature, c'est quand même la jonction du Rhône et de l'Arve, qui a été complètement aménagée, puisque l'Arve ne se jetait pas du tout comme ça dans le Rhône, et qu'elle se jetait de manière beaucoup plus frontale, en faisant du reste beaucoup de bras différents. Vous savez que l'Arve, elle a des crues qui étaient gigantesques, et ces crues endommageaient les constructions qui étaient sur la rive droite du Rhône, et même elles provoquaient quelquefois un événement qui était remarquable pour les Genevois, c'est qu'elles provoquaient une remontée du courant dans le Rhône, ce qui faisait que les moulins tournaient à l'envers, quoi. Et petit à petit, les Genevois ont endigué l'Arve et pour gagner les terres qui étaient les terres maraîchères, d'où les rues, nom des rues à jonction, comme la rue des Plantaporets, etc. Et puis finalement, on a essayé de la faire dériver complètement pour qu'elle s'aligne au cours du Rhône et qu'elle soit moins dommageable lorsqu'elle avait ses crues. Au grand dam du propriétaire, du seigneur qui possédait le bois de la bâtie, parce qu'à ce moment-là, l'Arve rongeait beaucoup plus sa propriété. Voilà, en gros, quand même, c'est un paysage très, très aménagé qu'on a ici. Alors, pour le rapport à la nature, Pierre.
Alors, je peux revenir encore un petit peu plus loin, au niveau préhistorique, même encore avant. Il faut savoir qu'ici, on était sur la glace complète, quand il y avait les dernières glaciations, si on est 100 000 ans en arrière. Vous pouvez imaginer un tablier de glace avec le Salève qui était immergé, et on voyait juste les pointes du Jura, les plus hauts sommets, qui étaient comme des petites îles sur la glace. Je vous parle d'une époque où il y avait des mammouths. On a retrouvé d'ailleurs au Muséum d'Histoire Naturelle, vous avez une défense de mammouth qui était trouvée sur le delta, vers le delta de la London, donc qui n'est pas très loin ici. Et après, à la dernière glaciation, ça a fondu, et le Rhône a pu... il y a eu d'abord un grand lac, puis le Rhône a trouvé son chemin, qui est à peu près le chemin qu'on voit maintenant. Et en fait, il a fait sauter un bouchon, qui est le Fort L'Écluse, que vous voyez tout au bout du bassin genevois. Il a passé par là, et puis il a pris son tracé. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir déjà que toutes les terres arabes dont tu parles, entre autres, etc., c'est des restes des moraines de ces glaciers. Donc le Rhône, il existe sous cette forme. Il a été passablement canalisé depuis, tu en as parlé un petit peu, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie des falaises de Saint-Jean, donc que le Rhône a creusé dès cette époque du glacier qui est descendu, c'est resté à peu près intact. Donc on a un petit bout de Rhône, si vous voulez, au centre-ville, qui n'est à peu près pas bougé au niveau géologique depuis toujours. Donc ça, c'est assez rare pour le mentionner, parce que tout le long de son cours, donc le Rhône, il fait à peu près 800 km hein, depuis le glacier jusqu'au delta qui est la Camargue. Donc, il y a 200 km à peu près en Suisse, tout le reste est du côté français. Mais pratiquement tout le long de son cours, il est modifié, il a été corseté, il y a des barrages qui ont changé son débit, etc. Il faut imaginer le Rhône, je ne sais pas si certaines personnes connaissent la rivière Lalandon, sur le canton de Genève. Lalandon, c'est une rivière, le Rhône est un fleuve, mais à l'état brut, à l'état sauvage, un fleuve comme une rivière ne prend pas forcément le même cours chaque année, donc il creuse, il y a des bras qui se font. Donc c'est très vivant, hein, ça fait des méandres, ça creuse, ça fait des îles de gravier, ça fait donc... Le Rhône est quelque chose de très vivant, il y a une morphologie différente, il y a des endroits où il va vite, des endroits où il s'arrête, des endroits où il y a presque des lagunes, des bancs de sable, des bancs de vase, des bancs de gravier, et toutes ces différentes morphologies sont évidemment très très intéressantes et très utiles pour la faune. Aujourd'hui, il a été endigué sur un grand bout, peut-être pas ici, mais plus bas, il y a des barrages qui régulent son cours pour éviter justement des inondations, des catastrophes. Donc, par exemple, le grand barrage des Chenevières, au barrage de Verbois, qui a créé un lac. Et en fait, ce barrage qui a été créé en fait à la dernière guerre a passablement modifié tout l'aspect naturel du Rhône. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Robert Hénard, le célèbre graveur et naturaliste. Lui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Quand le Rhône coulait libre », où il décrit en fait un Rhône sauvage, encore un petit peu comparable à la rivière de la London, sur lequel il observait des loutres. Et il parle au moment de la construction du barrage de ce cataclysme. Il voit les machines de chantier qui travaillent, qui creusent, qui cassent. Et il dit à ce moment-là une phrase que je trouve très belle. Il dit « On va tuer besoin d'existence pour des on va tuer ma raison d'être pour des moyens d'existence. » Donc il était extrêmement touché par ce Rhône qui a un peu disparu. Donc ce livre vous montre des images d'un vieux Rhône, des dessins qu'il a fait avant la guerre. Et puis si vous allez dans la réserve du Moulin de Verre, qui est un petit peu en aval, et ben vous voyez en fait des chapelets d'étangs avec une grande falaise. Et en fait, c'était le Rhône qui se baladait librement dans cette région-là. Donc ça, c'est une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le Rhône, maintenant, il coule extrêmement vite. On en reparlera quand on sera plus bas vers la Roselière. Mais... Donc il a beaucoup modifié, il ne fait plus de grandes vagues, si j'ose dire. Des fois, il y a des eaux basses, des eaux hautes. Donc tout ça, c'est la vie, c'est le mouvement, ce qui permet aux poissons de bouger. Aujourd'hui, il est beaucoup plus rapide, il est rectiligne, il va très vite. Mais sachez qu'ici, vous êtes encore dans un endroit... un endroit encore très sauvage, un peu préservé. Et une autre chose que je voulais vous dire sur le Rhône et qui est intéressante, parce que c'est un tout petit peu l'histoire de Genève, elle se situe là, c'est qu'il faut réaliser qu'entre les Alpes et la ville de Lyon, à une époque très très reculée, c'est à peu près impossible de traverser. Parce que le Rhône est un fleuve très très puissant, il y a le lac, donc on pouvait faire une navigation, on pouvait se déplacer comme ça, et de traverser avec des charrettes, comme ça, c'était un peu compliqué. Et il y a un pont sur l'île à Genève, et peut-être que tout l'essor de Genève vient du fait que vous avez ce pont, qui était le seul lieu peut-être de passage entre la ville de Lyon et les Alpes. Et c'est une des raisons pour lesquelles Genève a très vite, on a construit ce pont, parce qu'on pouvait traverser le fleuve en deux fois, c'était plus facile, et très vite, Genève a été une ville de commerce. C'est un commerce qui partait du nord pour aller au sud, donc on a vite eu des marchands. Et puis, il y a toute cette histoire de César qui a cassé ce pont pour les Allobroges. Vous avez la plaque sur l'île qui vous montre ça, vous dire à quel point c'était un lieu stratégique. Et puis surtout, après, quand il y a eu, on en a parlé tout à l'heure, la révocation de l'édit de Nantes, on a accueilli beaucoup, beaucoup de familles qui sont venues, des protestants qui ont été persécutés quand Louis XIV a révoqué cet édit. On a eu beaucoup de familles qui sont les vieilles familles genevoises, qui sont souvent françaises, nord-italiennes, c'est des gens qui sont venus ici. Et qui ont en fait créé toute cette prospérité d'une ville qui était déjà tournée sur les foires, les marchés, etc. Donc tout cet essor des banques, du commerce, des négoces, etc., peut-être vient du fait qu'on a cette petite île qui était sur le Rhône. Voilà. Maintenant, ce que je voulais juste vous raconter encore comme histoire ici, c'est aussi une histoire de migrateurs. Vous êtes sur un site, en fait, on ne les voit pas aujourd'hui parce qu'ils sont partis, mais vous avez un oiseau migrateur qui niche ici et qui a une population qui est très importante, c'est même une des populations les plus, peut-être les plus denses d'Europe centrale, qui est le milan noir. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un rapace qui tourne dans le ciel, que vous pouvez voir très facilement dans le quartier entre le mois de mars et le mois de juillet. Donc on les voit souvent à la hauteur des immeubles qui tournent, etc. Le milan noir, c'est un oiseau, un rapace, donc il mange d'autres animaux, mais il mange aussi pas mal de déchets. Il aime beaucoup manger des poissons morts qui flottent sur la rivière. Et il niche dans les arbres. Donc il fait des nids dans les arbres. Et il se nourrit beaucoup, beaucoup de déchets flottants. C'est la raison pour laquelle il s'installe très volontiers le long des grands cours d'eau près des lacs. Donc ici, vous avez dans les arbres, on ne les voit pas, mais vous avez un certain nombre de nids de milans. Et la raison, une des raisons pour lesquelles vous avez une des plus fortes concentrations de milans ici, c'est qu'en fait, vous avez toutes les poubelles de la ville qui viennent dans le bâtiment qui est en dessous de vous. Donc il y a des bennes qui régulièrement passent remplies de poubelles, de déchets. Donc tout ce que, tous les sandwichs, les restes, les os, toutes ces choses dont vous vous débarrassez, arrivent ici. Et les milans peuvent profiter de la tranquillité relative du lieu, du fait d'avoir des grandes propriétés, des grands arbres surtout, des grands arbres le long du fleuve, plus de cette manne providentielle que vous leur donnez à peu près tous les jours. Et donc, vous avez un certain nombre de nids ici. Alors, si je vous ai arrêté ici, c'est parce que vous en avez un, par exemple, juste en dessous de vous, ici. Vous pouvez regarder après. Si vous regardez sur le sol, à peu près à l'intersection des deux branches, vous voyez un nid. Et ça, c'est un nid de milan qui a été utilisé cette année. Il y a eu deux jeunes. Donc, les milans noirs sont au calme, élèvent leur nichet ici. Donc, ils reviennent au mois de mars. Si vous venez ici le 20, autour du 20, disons fin mars, vous les verrez, ils tournent passablement dans le ciel, vous les voyez passer à peu près à la hauteur de vos yeux. C'est un spectacle qui est assez grandiose. Et ces milans ont une histoire assez jolie, puisque à la fin de l'été, ils vont partir pour rejoindre l'Afrique. Et en fait, ils vont utiliser les courants d'air chaud que le sol dégage pour pouvoir migrer. Donc ils vont utiliser comme des ascenseurs thermiques, sans faire d'effort, pour pouvoir s'élever et glisser jusqu'à un autre ascenseur thermique. Vous comprendrez bien qu'ils ne peuvent pas traverser la mer puisque l'eau ne dégage pas de chaleur. C'est la raison pour laquelle tous les Milans qui nichent en Europe ici vont descendre, vont traverser les Pyrénées, descendre l'Espagne pour traverser en fait la Méditerranée à l'endroit où il y a le passage le plus ténu, c'est-à-dire le détroit de Gibraltar. Au moment où je vous parle, ils doivent tous être à peu près dans la région du delta intérieur du Niger. Et après, ils vont se déplacer, ils vont aller au Sénégal, etc. Et en février, ils vont remonter, retraverser le Sahara, retraverser Gibraltar pour arriver chez nous au mois de mars. Et vous souhaiterons la bienvenue quand vous reviendrez vous balader ici. Ça veut dire qu'en moment, maintenant, ils sont sur les fleuves aussi. Ça veut dire qu'ils sont en train de survoler des crocodiles, des hippopotames, des gens qui pêchent en pirogue, etc. Donc c'est un oiseau qui est plein de poésie. Et puis, vous viendrez les voir l'année prochaine. Je fais juste une petite parenthèse, puis je passe la parole à Nicolas. Donc moi, j'ai beaucoup bénéficié de... avant la barrière qui était posée ici, que je n'aime pas trop, parce que je la trouve un tout petit peu... on a un peu l'impression de marcher dans un tube. C'est un peu difficile d'observer. Donc il y a une polémique en ce moment au sujet de cette barrière que beaucoup d'habitants ici trouvent un peu vilaine. Et puis peut-être qu'il y aura la possibilité de changer pour essayer de bénéficier, de pouvoir mieux profiter de ce qui est une des plus belles villes, une des plus belles vues peut-être du canton. Voilà, sans tarder, je donne la parole à Nicolas parce qu'il y a des petits flyers et comme ça.
Donc, le Forum démocratie participative organise un débat public sur la question de cette barrière lundi 8 octobre à l'espace de quartier des Charmilles, donc à la rue de Lyon, avec la participation de la ville de Genève, M. Pagani, de l'association Stop Suicide et puis aussi des défenseurs du patrimoine. Voilà. Et puis, Pierre Baumgart, donc passionné par les Milans, a fait un livre. Voilà, donc je le présente ainsi. Et puis, adressez-vous à Pierre Baumgart si ce sujet vous intéresse. C'est un livre à la fois passionnant mais aussi magnifique.
Peut-être deux indications ici historiquement. Toute la partie qui est ici sur cette rive a été rattachée à Genève en 1536 avec l'extension des franchises. Et à partir de là, les grandes familles bourgeoises, petit à petit, ont monopolisé un peu toutes les terres et ont tracé les grandes propriétés. Alors on va aller tout à l'heure dans la propriété qui s'étend jusqu'ici au bord du Rhône, qui s'étendait jusqu'ici au bord du Rhône, qui est la propriété qui est là. Et ensuite, vous avez une propriété suivante qui s'appelle, qu'on a appelé longtemps la propriété Masset, qui était à la famille Chouet puis Vieux-Seux. Et un découpage comme ça de quelques propriétés le long de ces terres hautes de Saint-Jean qui étaient très prisées parce qu'elles ouvraient sur l'air pur, le soleil, les montagnes, etc. et la vue. Alors, il y a quelques maisons de maîtres qui subsistent. La propriété Masset, la maison de maîtres subsiste, qui est là, on va la voir tout à l'heure. Mais il y en avait encore quelques-unes, une vers l'école du devin du village. Il y en avait une à la rue du Château, c'est pour ça que ça porte le nom de la rue du Château. Et la suivante, elle existe encore, c'est celle des Délices, où a habité brièvement Voltaire. Ces propriétés s'étendaient jusqu'au Rhône, elles étaient cultivées. La vigne était très prisée parce que le vin était quand même la boisson de base. Et notamment toutes les terres qui s'inclinaient vers le vallon du Rhône étaient plantées de vignes. Vous verrez en remontant que l'actuel propriétaire de la propriété Masset, qui est le dessinateur Zepp, qui dessine Titoff, a replanté de la vigne en dessous de sa maison. Puis l'autre chose qu'on peut dire, c'est qu'ici, il y a eu un arrangement avec les Kéla dans les années 70, je crois. Non, même avant, 60. Le haut de la propriété, on en parlera tout à l'heure, a été racheté par des propriétaires qui ont urbanisé et par la ville et l'État pour y construire des écoles. Et le bas de la propriété ici, au bord du Rhône, est devenu une promenade publique, même si déjà avant, c'était une espèce de lieu de passage où les gens venaient se balader. Mais là, définitivement, c'est une promenade publique avec la barrière qui marque la limite de propriété, ce qui fait que l'entretien des rives est maintenant du ressort de la ville de Genève. Alors que le mur qui est là... Je ne sais pas si vous le connaissez, s'il y en a qui sont au courant de ce que c'était, mais ça a été très certainement construit par des ateliers de chômeurs aux frais de Kéla, qui voyait sa rive être très érodée par un Rhône qui était quand même beaucoup plus puissant à l'heure actuelle. Je rappelle qu'à l'origine, il n'y avait pas du tout de barrage. Donc ici, Chateaubriand, quand il est venu, il disait c'est un canyon avec un fleuve tumultueux qui s'engage dans le canyon. Mais c'est vrai que le fleuve devait être beaucoup plus bas. Ensuite, il y a eu le barrage de Chèvre qui a été construit vers l'Expo nationale 1890, qui a remonté et affaibli le courant. Mais ici, le lac de Chèvre ne venait vraiment pas encore jusqu'ici. Et maintenant, on a une nouvelle circulation des eaux avec le barrage de Verbois, comme tu en as parlé tout à l'heure. Voilà.
Donc le Rhône, je vous en parlais tout à l'heure, il coule de manière un peu calme. Vous voyez que c'est un tapis qui glisse, qui glisse, qui glisse. Il a quelque chose d'un tout petit peu monotone, puisque toutes ces eaux sont en réalité
domestiquées.
On en règle le débit aujourd'hui. Donc, pour la faune, notamment pour les poissons, ça pose un problème parce que présence de poissons, il y a évidemment. Il faut savoir que les poissons doivent se reproduire. Et pour se reproduire, si je parle par exemple de l'exemple de la truite peut vivre dans une eau relativement polluée, mais au moment où elle va pondre ses œufs, il lui faut deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle une granulométrie, c'est-à-dire des petits cailloux d'une certaine taille, comme des petits graviers, pour qu'elle puisse déposer ses œufs. Donc la femelle dépose ses œufs sur ce lit de gravier, et le mâle va passer dessus, mettre sa laitance pour qu'il soit fécondé. Donc il faut une qualité du sol qui soit favorable pour qu'elle puisse déposer ses œufs. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut de l'oxygène, parce que les œufs ont besoin de beaucoup, beaucoup d'oxygène. Au moment où les alevins vont sortir, ils ont besoin de cet oxygène. Voilà deux choses qui manquent dans le Rhône aujourd'hui. En régulant le niveau avec des barrages, etc., vous allez d'une part glisser les eaux, évidemment, comme un tapis roulant, mais vous avez aussi des eaux plus profondes comme ça qui vont stagner. Vous avez beaucoup de limons, beaucoup de dépôts qui vont se faire et qui vont boucher, colmater ces petits graviers. Et puis, en eau pratique, vous en savez quelque chose, tous les déversements, etc. Bien que le lac et le Rhône se portent beaucoup mieux qu'il y a quelques années, l'oxygène manque quand même, donc les poissons ne peuvent pas vraiment se reproduire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis, pas pour protéger le fleuve, mais pour acheter des poissons qu'on déverse dans le Rhône pour que les pêcheurs puissent les pêcher. Il faut juste savoir comment ça se passe, parce que dans le Rhône, ici, il n'y a pas de reproduction de ces poissons-là. Vous m'entendez quand même, malgré le... Voilà. Alors, je fais juste... Au niveau naturel, le Rhône va tout droit, les fonds ne sont pas forcément très favorables, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, vu l'état donné, c'est de redonner des coups de pouce aux endroits où on peut le faire. Je vous ai parlé tout à l'heure des toitures végétalisées, c'est un coup de pouce. Alors au niveau du fleuve, il y a un certain nombre de coups de pouce qui sont donnés. On essaie de faire au mieux avec ce qu'il y a. Il y a des gros efforts qui sont entrepris, il y a l'assainissement des eaux, etc. évidemment. Mais on essaye, je vous l'ai dit tout à l'heure depuis le pont, on essaye de redonner dès qu'on peut un tout petit peu de morphologie sauvage. Je vous disais, le Rhône, tu l'as dit avant, il creusait ici. Donc il faut imaginer qu'il devait passer, creuser, déchirer. Il devait y avoir des îles de gravier à certains endroits plus haut, plus bas, etc. Aujourd'hui, c'est un tapis roulant, il glisse. Donc on a perdu un tout petit peu toute sa vie et tous les milieux qu'il crée. Alors là, sur cette terrasse, en fait, sous Kéla, on va passer devant. Vous allez voir qu'on a recréé, en fait, un milieu naturel. Ça veut dire qu'on a, avec cette petite digue de pierre, on va laisser rentrer un bout du Rhône qui va circuler à l'intérieur et qui va offrir un tout petit endroit qui est comme une petite réserve naturelle qui va permettre de calmer les eaux, qui va permettre à des roseaux de s'installer. Parce qu'évidemment, si vous avez du courant qui est trop fort, là, le Rhône est encore assez calme. Mais selon comment ça débite, il peut... C'est pour ça que vous ne verrez pas tellement de roselières au bord, vous ne verrez pas beaucoup de végétation. Alors là, vous allez voir qu'il y a une petite roselière, donc plantation de roseaux, parce que les conditions le permettent. Et ça permet d'avoir des roseaux inondés, de la végétation, des eaux un peu plus calmes. Et ça permet un certain nombre de poissons, alors pas la truite, mais par exemple le brochet. Ça, c'est des zones où les brochets peuvent venir frayer. Donc frayer, ça veut dire venir pondre ses œufs et se reproduire. Parce que sinon, là, au milieu, ils ne peuvent pas, les œufs partent dans le courant. Donc là, on a une espèce de micro-réserve naturelle. Donc ces petits éléments qui redonne un petit peu un coup de pouce à la nature. Vous verrez des poissons. Il y a aussi d'autres animaux comme les grenouilles rousses, les tritons qui sont des batraciens. On met toujours les grenouilles dans l'eau dans la rivière, mais non. La grenouille rousse, c'est un animal qui vit en forêt et qui vient juste au mois de mars pour pondre ses œufs. Vous connaissez le cycle des batraciens, ils doivent être dans l'eau pour faire le cycle du têtard jusqu'à la grenouille. Et c'est des animaux qui vivent en forêt. Et je finirai, donc vous allez passer, on va aller à la propriété qui est là et vous allez juste passer devant ces micro-réserves naturelles. Et je vais encore vous dire une chose qui est surprenante. On ne se rend pas bien compte en marchant comme ça le long des berges. Soit dit en passant, là il y a un sentier en face, je vous le déconseille, il est vraiment dangereux, il ravine et ce n'est pas un lieu de promenade qui est forcément très très facile. Mais quand même vous dire que dans cette région, alors qu'on est au cœur de Genève, si je vous parle de renards, de sangliers, de chevreuils, de blaireaux, c'est toutes des bêtes qu'on trouve ici. Donc elles vivent la nuit parce que, évidemment, la journée il y a beaucoup de promeneurs, des joggeurs, des gens les repoussent. Et c'est très surprenant, nous allons aller dans la propriété juste en dessus. J'étais ce printemps avec monsieur et madame Kella, on a discuté un moment, on avait un chevreuil. Ils ont un chevreuil, c'est son grand drame parce que le chevreuil vient brouter ses rosiers, etc. Et pour vous dire que ces bêtes-là viennent pratiquement jusqu'au centre-ville, et c'est la raison pour laquelle il faut impérativement conserver ces cordons, des haies, des boisements, des cordons le long des rives, etc., pour que la faune puisse circuler et puis qu'on puisse trouver encore ce genre de bêtes ici. S'il n'y avait pas ces cordons, on perd d'un coup toutes ces bêtes-là. Donc, pour vous dire, voilà, il y a ces valeurs. Le Rhône en est une. Les grands arbres riverains, c'est aussi des valeurs. Donc, respectez ces endroits. Venez vous y promener. Profitez. Et puis, vous allez être surpris à quel point la vie et la nature est présente tout près de chez nous. Donc, n'hésitez pas. Vous allez regarder en passant. Vous verrez le milieu naturel. Merci.
En remontant, on va emprunter ce qu'on appelle le nom du petit Kella. Alors observez un peu comment c'est, parce qu'il est resté dans son état d'origine. Il est plus petit que le nom qui a été comblé pour faire passer la voie du chemin de fer, mais c'est exactement le même type de formation des eaux de surface qui s'écoulent et qui creusent un ravin pour atteindre le Rhône. Et on se retrouve devant l'entrée de la propriété Kella. Bon, on va descendre dans la propriété qui est là où le propriétaire nous attend. Je vais juste, avant pour qu'on soit juste au clair sur du lieu dans lequel on se trouve. Originairement, si vous regardez, on voit juste plus là derrière, mais vous avez une limite de propriété qui va dans cet axe-là, qui sépare le collège de Kella avec toutes les villas qui sont à côté. C'est une extrêmement ancienne limite de propriété, parce que toute cette partie-là était sous la... C'est pas une juridiction, mais enfin bref, du prieuré de Saint-Jean, le prieuré de Saint-Jean qui était au bout du pont sous terre, et eux, ils avaient leur terre qui s'étendait jusqu'à cette limite-là. À partir de là, c'était plus Saint-Jean, c'était le seigneur de l'endroit qui était le seigneur de Gex, qui gérait ces terres-là. Donc vous avez toujours eu une limite de propriété ici. Très vite, autour du Nanvigné, la famille de Fernet a eu des fiefs dépendants de Saint-Jean, ce qui explique que vers 1500, Besançon-Hugues, qui a son quai vers la place Bel-Air, qui était un partisan du rattachement de Genève à la Confédération, qui a épousé une Clauda de Fernet, s'est installé ici et était le premier habitant de Saint-Jean, avec une maison ici et une maison vers le devant du village. Et puis, cette propriété ensuite a été scindée le long du Nant ici. Et pour que vous compreniez bien, l'entrée de la propriété, c'est ce chemin-là, c'est le chemin de William Lescase, qui ensuite bifurquait pour aller rejoindre l'avenue d'Aïr. Et ce qui est le pavillon qui est là à l'heure actuelle, c'était le pavillon du concierge, de l'entrée, du gardien de la propriété qui est là. Et c'est dans les années 50 que les Kella ont dû se résigner à vendre le haut du plateau pour pouvoir entretenir leur maison. Ils ont vendu aussi le bas pour en faire une promenade. Et sur le haut, c'est Ador qui a acheté pour faire les bâtiments du contrat social, qui ont été construits en 4 mois pour montrer que le privé pouvait faire du social. Et la ville et l'État se sont partagés l'autre pré-Kella ici pour construire école primaire, puis une école ménagère qui est devenue le cycle d'orientation.
Et puis, la dernière chose qu'on pourrait juste dire, pour que vous compreniez bien la morphologie de Saint-Jean, c'est que ce grand non-vignier qu'on voit là, dans lequel on était tout à l'heure avec le sentier du promeneur solitaire, venait en réalité d'un énorme marécage qui se trouvait entre la rue des Confessions et presque l'avenue d'Aïr, de part et d'autre de l'avenue Galatin actuelle, ce qui explique que le quartier de Saint-Jean n'a jamais eu de grande voie de communication. Parce que vous arriviez ici, vous étiez coincé à la fois par le ravin et par le marécage. Donc même les prieurs du prieuré, lorsqu'ils voulaient aller sur leur terre à Aïr, devaient remonter ce qui est devenu la rue des Charmilles, puis passer le chemin d'Aïr là-bas. Et ensuite, ça a été drainé et on en a fait une carpière qui a été un lieu de patinoire au 19e siècle, et ce qui alimentait le non-vignier qu'elle a. Voilà. Et je vous présente M. Kella, qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez lui.
Bonjour.
Avec cette maison qui a une particularité, puis après je vous passe la parole, c'est que par rapport aux autres maisons qui étaient presque sur les lignes de crête, ici, elle offre ce mystère de descente comme ça, sur ce plateau, ce qui faisait qu'à l'époque, on pouvait en mettre plein la vue aux visiteurs, parce qu'on avait l'impression que tout ça, c'était la propriété qui est là. On ne voit pas le Rhône depuis ici. Et c'était depuis la terrasse qu'on devinait le Rhône, qu'on découvrait le Rhône et que le bois de la Bâtie n'était pas la propriété qui est là.
Merci beaucoup, bienvenue. Tranquillement descendre un tout petit peu si vous voulez voir un petit peu la campagne, et puis je vous donne quelques explications pendant qu'on descend si vous voulez.
Merci beaucoup.
Alors effectivement, comme on vient de vous le dire, la particularité de cette maison au point de vue architectural, c'est qu'elle est vraiment construite à ras-le-bord des falaises et de la pente qui est raide qui descend sur le Rhône. Et bon, j'ai ouvert ce matin le salon, vous avez le vestibule qui est en face de vous, qui donne sur le salon, et il y a un perron et une terrasse très étroite derrière. Ce qui fait qu'au fond, c'est ce qu'on appelle un effet. C'est ce qu'on appelait un effet AA, qui met les gens soit un peu étonnés quand ils découvrent que le bois de la Bâtie en face n'a rien à voir avec la propriété, qu'il y a le Rhône entre deux. En fait, le Rhône, en cette saison, vous ne verrez pas tellement parce qu'il y a encore beaucoup de feuilles, feuillages que les arbres en outre ont poussé, mais il faut vous dire que jusqu'au XVIIIe siècle, toutes ces pentes du Rhône étaient essentiellement des vignes. Sur les vieux plans, on voit encore que tout est planté en vigne, donc beaucoup plus bas, ce qui permettait certainement d'admirer davantage le Rhône. Donc, en vin qui devait être relativement buvable, assez bon, je pense qu'on vous en a parlé au prieuré de Saint-Jean qui avait une certaine réputation avec son vin, eh bien, je pense que là, l'orientation est exactement la même, plein sud sur les vins, vous êtes donc exactement l'orientation nord-sud. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que la maison de maître, vous voyez là, n'est pas du tout la partie la plus ancienne. À l'origine, il n'y avait que ce que vous avez découvert sur votre gauche, la ferme. C'était un domaine agricole, et la ferme qui n'était pas du tout dans l'état actuel, puisqu'à l'origine, il n'y avait que la partie sud-est, donc l'angle sur ma main gauche, si vous voulez, sud-est, et je pense qu'à l'origine, c'était essentiellement une tour de vigne qui était arrangée à un moment donné au XVIIe siècle par un des propriétaires qui voulait aménager un peu mieux le logement et qui au premier étage a arrangé son logement. Mais quand on a fait des travaux assez récemment, vers les années en 2010 et 2013, on a vu qu'une poutre de l'ancienne cuisine dans la ferme datait dans le logis de 1425. C'est bon, c'est beaucoup plus ancien. Il y avait une tour de vigne bien plus ancienne que la maison, qui est typiquement du XVIIIe siècle. Avec cette particularité, d'un point de vue architectural, qu'elle a été construite en deux étapes. C'était à l'origine, donc, tout le domaine de Besançon, qui s'étendait tout au bord. Ensuite, c'était très longtemps une propriété de la famille Sarrazin, puis Riet. Et c'est un nommé Jean-Jacques Riet qui, lui, avait construit la maison, mais comme en rez-de-chaussée avec jardin pour avoir une demeure d'été, évidemment uniquement en hiver, les étés en ville.
Et
il y a encore d'anciennes gravures qui, où l'on voit la maison en étage. J'ai été confirmé lorsqu'on a fait des travaux. Madame Amsler, notamment historienne de l'art, a tout à fait confirmé que c'était net. Et ce n'est pas la seule maison. Il y a d'autres maisons du canton de la même époque qui ont aussi eu cette particularité d'avoir d'abord été construites sous forme de rez-de-chaussée avec juste après bien ce rez-de-chaussée. Et ce n'est que lorsque, au fond, elle est entrée dans la famille, seulement en 1786, qu'à ce moment-là, en acquérant la maison, qui n'était pas si la famille, donc Rieppe, puis en Galif. Et... Oui, et ce Galif, peut-être plus prudent que mon ancêtre, qui a été victime, lui, de la petite terreur à Genève en 1794. Galif a vendu à mon ancêtre en 1786 la maison, et c'est lui qui l'a mise dans son état actuel. Bon, la famille, donc on vient de la famille vient de l'ancienne province du Rouergue, c'est à côté des Cévennes, donc ça correspond au département actuel de l'Aveyron, tout au sud, tout près de Saint-Affrique, quoi, hein, au sud de l'Aveyron, et le quai là est au fond un lieu dit dans une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Affrique. Et donc mon vrai nom de famille, c'est Fusier, puis trait d'union qui est là, et comme plusieurs autres familles à Genève, elles ont été connues lorsqu'elles sont arrivées à Genève du nom de l'endroit d'où elles venaient. Vous avez aussi les Marignac, ça vient toujours de Galissard, Marignac, les de Beaumont, cette bouteillée de Beaumont. Moi, c'est le cas de plusieurs familles à Genève qui ont été connues lorsqu'elles sont venues. Mais en fait, mon ancêtre n'est pas venu directement du Rouergue, c'était une maison de commerce. Ils avaient une maison de commerce à Cadix, donc, qui était le grand port à l'époque de tout le commerce avec l'Amérique latine. Et il est venu, au fond, s'établir comme commanditaire de cette maison de commerce à Genève. Il s'est marié à Genève. Il a eu 10 enfants. Et c'était donc, il est arrivé en 1729, donc assez tard. C'est pas des réfugiés, beaucoup de religions qui sont venus au moment de la Saint-Barthélemy ou de la révocation de l'édit de Nantes. Il y a eu encore cette région du sud de la France, tout ce qu'on a appelé la guerre des Camisards, ce qui fait qu'ils ne sont arrivés qu'assez tard, mais en passant par où il y avait une société de commerce qui était basée à Cadix. Et c'est une caractéristique dans la famille, il n'y a au fond jamais eu, depuis lors, jamais deux fils. Il y a toujours une quantité de filles, jamais deux fils, ou s'il y avait deux fils, il y avait toujours un qui mourait très jeune, ou un autre qui n'avait que des filles. Donc au fond, il n'y a toujours qu'une seule lignée de Kéla. Que vous dire encore? Donc, en 2007, nous avons créé trois appartements dans les annexes à la ferme, c'est derrière, qui sont à la bourse du Carnier, qui sont les bâtiments du début du 19e siècle. Et puis la ferme elle-même, le pavillon principal, trois appartements ont été créés en 2013, parce que jusque à cette époque, il y avait eu une famille de fermiers, la famille Jungo, qui a habité là. Madame Jungo, elle a dû entrer dans un MS à un moment donné. Elle est décédée l'an dernier, d'ailleurs. Mais c'était eux qui ont cultivé. Et pendant très longtemps, la famille de fermiers était les Svalon. Jacques Svalon a été très actif dans tout ce qui concernait le quartier de Saint-Jean pendant longtemps. Longtemps, c'était un peu une des mémoires vivantes du quartier aussi. Il a vécu comme enfant là. Et il a connu toute la période où il y avait le zoo à côté de celui d'Aïr. Et il m'a même donné une fois, que j'ai quelque part, une photo en voie des singes qui s'étaient échappés du zoo et qui étaient sur la barrière ici. Et un autre était venu se mettre sous le lit de ma grand-mère dans le moment où ce qu'il avait créé, pas seulement de complications. Mais le zoo, il a donc disparu, il n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, il a disparu au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est bien fin. Voilà, que vous dire encore? Ben, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Vous pouvez faire le tour tant que vous voulez. Bon, il n'y a pas grand-chose. C'est plus la saison où il y a des fleurs. D'ailleurs, très franchement, ma,
on a simplifié un peu, il y a une bonne sensation. Vous pouvez vous promener tranquillement. Pour les enfants, vous verrez, il y a quatre ânes dans le pré qu'un paysan a mis. Et la petite, une petite ânesse qui s'appelle Surprise est née le premier, samedi 1er septembre. Donc toute récemment. Vous verrez une petite ânesse dans le pré. Alors les ânes, je suis très content de ce paysan qui m'a demandé s'il pouvait mettre des ânes ici parce qu'ils servent de tondeuse automatique sur un pré que je ne savais pas comment entretenir. N'allez pas par contre tout au bout de l'allée qui est là-bas parce que là il y a des quantités de ruches, il ne faudrait pas risquer. Puis que, encore que si vous n'intervenez pas, il n'y aura rien qui se passera. Voilà. Ah, alors, bah vous verrez, chevreuil, donc c'est très très sympathique. Parce que monsieur il est spécialisé, non seulement des bilans noirs, mais aussi des papillons, est venu étudier les papillons de nuit ici. Une nuit, monsieur Bonga. Et effectivement, alors, si les roses sont en mauvais état, il faut attribuer cela à un chevreuil. Qui se régale des boutons de rose, de sucreries, c'est une de leurs nourritures préférées. Mais encore ça, bon, c'est sympathique, mais moins sympathique, il y a quand on a des sangliers qui passent, on lui met une protection, c'est avec la chaîne et les glands. Il y a un sanglier qui est venu labourer, un ou deux, j'en sais rien, je ne les ai pas vus, mais qui est venu labourer le terrain après du chêne la semaine dernière encore. Donc vous voyez qu'on est en pleine ville, on est sur le territoire de la ville, c'est l'ancienne commune, l'arrondissement de Petit-Saconnel. C'est pas Saint-Jean, mais c'est la ville de Genève, mais on a quelquefois de l'impression d'être en pleine campagne quand même.
Avec les chouettes aussi, parce qu'il y a une question pour les enfants.
Écoutez, je vous laisse
prendre. Il y a aussi une famille de chouettes qui vit dans les grands arbres ici, qui nichent dans les trous des grands platanes, et qu'on a eu l'occasion de voir justement un soir avec toutes les jeunes qui quémandaient la nourriture, et la chouette qui venait nourrir les petits les uns après les autres. Puis ça pour des enfants qui auraient peut-être des questionnaires à remplir.
Alors, j'ai la désagréable mission d'être le gardien du temps. J'ai échoué dans ma mission et j'en suis très heureux. Donc, je vous propose un tout tour là, pour avoir un aperçu sur la propriété. Je remercie encore monsieur qui est là, tous les participants. Puis ensuite, ce sera notre dernière petite étape pour nous retrouver à l'apéro qui est juste derrière le site de retraite. Varcher, vous nous dire aussi quelques mots.
Juste une anecdote, puisqu'on est un peu dans l'histoire. Quand vous êtes dans cette allée d'arbres ici, ayez une pensée émue pour ce lieu qui était le lieu d'un des derniers duels qui a eu lieu à Genève. Monsieur Grenu, défenseur des valeurs de l'aristocratie, s'était senti humilié par le voisin, qui était Sismondi, et l'a provoqué au duel sous ses arbres, au pistolet. Sismondi, beau joueur, a tiré en l'air. Grenu, lui, voulait du sang, mais il a raté Sismondi. On a remis un deuxième coup alors que Grenu voulait finir le duel à l'épée et les témoins n'ont pas été d'accord. Donc on a remis un deuxième coup et Sismondi a de nouveau tiré dans les nuages. Et Grenu, lui, son arme s'est enrayée. Et à ce moment-là, les témoins sont approchés de lui pour lui dire « La famille Grenu est vraiment magnifique. » On peut arrêter là. Et c'était le dernier duel à Genève, sauf erreur, parce qu'ensuite, il y a une motion au conseil représentatif pour dire qu'on arrête quand même ce genre de choses. C'était donc chez vous.
Donc on a Ruth Leyenberger qui est là à côté de moi. Donc Ruth va vous proposer de visiter le potager de la PUC qui signifie Association pour le potager urbain de Kella. Elle va vous faire une petite introduction. Donc le but c'est de pouvoir en fait le visiter par groupe de 5.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Il y a besoin du micro, vous m'entendez? Donc moi je suis de l'association Pavillon Kella, c'est cette petite maison qui est en haut du cycle de Kella. Et cette petite maison, pour juste vraiment une petite minute, c'était une maison qui était libre, vide à l'abandon, qui appartenait à l'État de Genève. Et l'État de Genève voulait la vendre aux plus offrants. Et ensuite il y a eu des jeunes qui sont venus la squatter pour faire un atelier de vélo, ils se sont fait virer assez vite. Et s'étaient adressés à la maison de quartier en disant mais c'est quand même dommage qu'il n'y a rien qui se passe dans cette maison. Et du coup, avec la maison de quartier de Saint-Jean, un groupe d'habitants ont décidé de se mobiliser pour essayer de récupérer la maison pour en faire un lieu ouvert à l'attention des cyclistes. Et c'est ce qui s'est passé, puisque après plusieurs années de militantisme, de lutte. On a obtenu un droit de superficie sur cette maison et on a obtenu des fonds privés, 400 000 francs, pour rénover cette maison. L'intérêt, c'est que toute la rénovation, dès le début, on voulait qu'il y ait des jeunes. L'intention, c'est qu'il y ait des jeunes qui puissent découvrir des métiers à travers cette maison, actuellement les métiers de la mécanique vélo. Mais durant tout le projet de réhabilitation de maison, il y a eu des jeunes qui sont venus faire des stages avec les couvreurs, avec les charpentiers, avec les peintres. Donc il y a eu plein de jeunes qui ont pu faire des stages découvertes. Donc actuellement, on continue notre projet, on est vraiment lié à la mécanique vélo et il y a toujours des jeunes qui sont ici en stage. Nos heures d'ouverture sont de mardi au vendredi 15-19h. On est un peu lié, pour l'instant, comme je disais à certains, on est encore un peu, pas dans la précarité, mais un petit peu, c'est qu'on est lié à des subventions pour payer le moniteur vélo qui encadre les jeunes et qui vous accueille. On est lié à des subventions que nous obtenons coup par coup de la ville de Genève et aussi du bureau de l'intégration, puisqu'en été et durant les vacances scolaires, on accueille des jeunes en stage qui viennent du centre de mineurs non accompagnés. Donc c'est des jeunes requérants d'asile qui viennent faire des stages en été, puisqu'en été, ils ne partent pas en vacances et ils sont toujours intéressés à faire ces stages. Voilà, en quelques mots. Je suis là si jamais il y a des gens qui veulent plus d'informations sur cette association. D'ailleurs, vous pouvez aussi devenir membre, comme il y a plein d'associations sur Saint-Jean. C'est une des associations où vous pouvez participer. On est toujours ouvert à des gens qui se mobilisent, qui viennent participer. On a un jardin où on pourrait s'occuper. Il y a plein de choses à faire autour de cette maison. Voilà, merci beaucoup de l'attention.
Merci. On va donner la parole à Ruth pour vous introduire concernant l'histoire du potager.
Alors bonjour, je vous dis bienvenue pour le jardin potager à Puc, là. Et ça partit par l'expérience du potachon qui se trouvait juste là où l'immeuble est en train d'être construit. Et on était 10 jardiniers de ce jardin qui ont voulu continuer l'expérience de jardiner. Alors on a formé une association, on a cherché un terrain, on a trouvé ici qui appartient au service des écoles, alors à la ville de Genève. On a déjà eu un bon contact avec Nature en ville et nous qui était prête à nous payer 50% du chantier qui a coûté 40 000 francs ici. Et on a cherché encore d'autres associations, d'autres sponsors. On avait Loterie Romande qui nous a payé quelque chose et encore une autre fondation qui veut rester anonyme, qui nous a aidé. Et 20%, c'est nous, les membres. Alors on a été 10 au début, on a cherché encore d'autres. On est 23 maintenant qui font le potager ici. Notre secrétaire Gisèle, qui se trouve dans le jardin, je crois, encore, a écrit beaucoup de lettres pour demander, pour négocier les contrats et tout ça. Ça a pris du temps, un an. On avait presque 2 ans qu'on a eu jusqu'à ce que tout était bien. On a une convention avec le service des écoles. Et puis avec Nature en ville pour ça. Et puis on doit payer 4 cotisations chaque année pour les 4 ans, quelque chose pour pouvoir remettre tout à niveau de nouveau qui coûtera 4 000 francs environ. Et l'entreprise qui a tout créé, c'est Realis. On a un super contact avec eux. Ils nous aident par moment. C'est vraiment super. Notre bilan est plutôt positif, on a des bonnes récoltes, mais on n'a pas beaucoup d'ombre. Alors ça fait qu'en été, on est plutôt là pour vite travailler, arroser, et puis rentrer. On ne reste pas très longtemps ici dans le jardin. C'est pour ça que vous ne voyez peut-être pas toujours quelqu'un dans le jardin, mais il fait très chaud, on n'a pas d'ombre. Alors on ne reste pas longtemps. Maintenant, on va être un peu plus peut-être là, vu qu'il fait un peu plus frais. Le négatif, c'est l'ombre, c'est le manque d'ombre, et puis parfois aussi des légumes qui sont volés, qu'on a chéri, qu'on a aimé, qu'on a voulu laisser jusqu'au bout, et tout à coup c'était parti. Alors, ça c'est le bémol, mais sinon on est très content d'être ici. j'aime bien vous faire visiter notre jardin. Alors le premier groupe, groupe 1, peut venir avec moi.
Merci.
Une parcelle comme ça, en où il y a deux personnes qui se partagent une grande parcelle.
Ok. Hein,
chacun peut planter ce qu'il veut, mais ça doit être bio. Et surtout pas de pesticides et tout ça. Là, on a l'eau, on a mis une maison. On a des arrosoirs, on a des outils là. On arrose, chacun est responsable pour sa parcelle de fer. On a un compost. On gère aussi nous. On coupe les choses pour que ça
ne prenne pas trop de place. Hein.
Ça prend pas trop de place. Et puis aussi que ça se décompose un peu plus vite. Ouais.
Ah, vous avez fait un hôtel insecte aussi.
Hôtel insecte, mais il n'est pas encore tout à fait fini. On doit encore mettre un peu de trucs à l'intérieur. Ouais. Okay. On est vraiment aussi que les insectes se sentent à la maison. C'est pour ça qu'on a mis les fleurs et tout ça. Aussi, chacun doit mettre quelques fleurs.
Ouais.
Vu qu'il y a plusieurs personnes de différentes cultures qui viennent, les cultures sont aussi toujours un peu, reflètent un peu la culture qu'ils sont. Hein? Ouais. Parfois des choses de leur pays.
Moi j'ai ma voisine, je m'appelle ici.
Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de personnes qui se désistent pour faire le potager, mais on a une liste d'attente. On a 23 personnes. Ça, c'est le mien. J'ai un maïs qui n'a pas donné de fruits, mais qui est monté en bas. Beaucoup d'aubergines cette année, ça a bien marché. Ah ouais, super. J'en ai eu une trentaine d'aubergines. Déjà. Ça pousse bien.
Ça pousse bien, des salades. Elle n'a pas autant... Ouais, il y a moins de soleil chez moi.
Ouais, c'est un peu la permaculture. J'essaie de faire pousser. Et toujours un peu d'autres personnes qui cultivent, qui mettent la paille ou autre chose à l'intérieur. Pour moi, vous ne mettez pas de paille du tout. Chacun est assez libre. Ça doit être juste bio, pas de pesticides. Il y a aussi ceux qui font des expériences. Il a fait une expérience cette année.
Oui.
Il a moins pu récolter. Mais voilà,
c'était
une expérience. C'était quoi son expérience?
Rien arrosé.
Ah,
non,
rien arrosé, carrément.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Mais en mettant de la paille. Hein.
Maintenant, il est assez couvert par. Ouais. Il n'a pas désherbé non plus, alors.
Donc c'est la foison, c'est un peu la.
Ouais. Ah oui. Mais c'est une expérience pour une année, de voir. Il y a d'autres qui ne desservent pas non plus.
Hein. Ouais, je vois.
Il y a d'autres qui sont plus structurés.
Il y a quand même des tomates au moins.
Mais ah c'est déjà.
Ah, c'est déjà fini.
C'est déjà fini. C'est quelqu'un qui partage.
Ah, d'accord.
Qui partage son.
Il n'a pas eu grand chose. Il a fait chaud, t'as vu?
Ouais.
On va
juste prendre
un petit dernier truc.
Et
après, on y va.
Ouais,
t'as vu?
Elles sont jolies.
Différentes sortes de tomates. On échange un peu. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment on peut se comparer pour les. Pour les limaces qui sont très.
Actives.
Actives.
Ouais, ça c'est le problème de beaucoup, hein, ouais. Sur les masques.
C'était quoi là? Vous avez des conseils du jardinier?
On avait eu au potachon, ici non. Mm-hmm. Alors c'est un peu sauvage cette année. Mais ça pousse bien.
Ouais. Carrément, hein.
Bon, on a reçu la pomme terre pour commencer.
Ouais, c'est ça, et ça dépend tout. Hein.
Là, on a des personnes qui sont plutôt dans les herbes. Moins de légumes.
C'est comme ça. Non, si c'est du poivre, ça, je suis pas sûr. Ah si, ça sent un peu.
Je pense que c'est déjà presque la fin de saison, il faut venir en printemps ou en été, hein,
ouais, y a plus
pour voir un peu comment il est.
Une courge qui sort.
On est toujours aussi prête de faire un tour avec les personnes qui, si quelqu'un veut une fois vous regarder quand c'est. Il faut juste demander.
La terre, vous l'avez eue comment? Vous l'avez procurée comment?
C'est Réalise qui nous a amené la terre. C'est eux qui se sont occupés pour trouver la terre végétale.
Ah ben, ils font pas que les...
Ouais,
Réalise,
c'est ça, c'est
ils font autre chose encore.
Les ordi, alors. Ils récupèrent
ouais,
les ordi.
C'était surtout ça, ouais,
les... ouais. C'est une bonne entreprise, alors c'est à recommander.
Ouais. Belle rose.
Mais c'est la fin de saison, c'est pour ça que c'est
un peu
moins
pas très fort.
Que...
Ouais. Hein.
Oh, il est trop chou. Non, mais on voit que ça...
Les tomates, ça marche. Hein.
Ouais, à fond, quoi. Mais même là-bas, il y a aubergines et courgettes, ça a l'air de chouer pas mal. Hein.
Pique les tomates. Et puis là, c'est chez... La personne a un peu trop de travail.
Ouais.
Il n'a pas réussi
à arroser. Là au moins on n'est pas trop courbe, on n'est pas aussi courbe que la terre.
Il y a aussi bien.
La terre est plus basse, là c'est quand même.
Mais
plus
oui, justement. Mais ouais, je.
C'est mieux pour le dos.
Ah, c'est clair.
J'ai taillé, si tu peux venir tous les deux jours.
C'est pas celle-là. Oui, moi je me demandais pourquoi le choix des bacs. Comme ça, pas en hauteur ou pas pleine terre ou...
À pleine terre, ça c'est pour le dos.
Bien sûr.
Ça, c'est beaucoup plus pratique en bac. Et puis si on met en butte, ça descend la terre. On avait des buttes à l'autre côté et on a voyé que ça part. C'est beaucoup de travail. Et comme ça, c'est moins de travail.
Ouais.
Et puis c'est plus pratique pour travailler le sol.
Bien sûr. C'est et puis alors là, vraiment, le problème, c'est le soleil.
C'est le soleil
pour, en plein été.
C'est bien pour les plantes. Un peu. Il y a des choses qui poussent moins bien parce qu'il n'y a pas assez d'ombre. Mais c'est bien. Mais pour rester dans le jardin, c'est plus embêtant. On ne reste pas à 35 degrés là, au soleil, non. Ouais.
Magnifique. C'est splendide. Merci beaucoup.